Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Et dans les grandes largeurs, vous retrouverez évidemment le portrait inattendu d'Hélène Manarino aux alentours de 10h20. Juste avant, vers 10h et des bananes, Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Puis Eva Rock pour le zapping du lendemain. Et dans quelques instants, en première heure donc, le journal des médias d'Antoine Janton qui est déjà dans ce studio. Nous sommes ensemble pour 2h en direct. Vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie de l'émission qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia va revenir sur l'un des plus grands mystères de l'histoire avec un grand H. La guerre de Troie a bien eu lieu. C'est la thèse d'un documentaire diffusé ce soir sur France 5. Nous serons avec son auteur et ses pièces à conviction. La journaliste Valérie Thoragnan ensuite. Elle dirige depuis 2015 la plus ancienne revue européenne en activité, la Revue des Deux Mondes. Quelle est la place d'une revue à l'heure d'Internet? On lui a posé la question 100 fois, donc j'en aurai d'autres. Enfin, Anne de Pétrigny, ancienne animatrice télé puis réalisatrice, elle publie son premier livre qui parle d'elle et de ses expériences profondes, mais également ésotériques, ça va très loin. Ça s'appelle La Quête, ou éventuellement un titre bien meilleur, et c'est le vrai titre du Grand Prime, son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Et bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Une nouvelle émission littéraire sur la plateforme Brut X, la fin annoncée d'un des talk-shows les plus populaires aux États-Unis. Et puis Éric Judor, tête d'affiche d'une série prévue l'an prochain sur Disney+.
Mais d'abord, les audiences avec Médiamétrie qu'ont regardé les Français hier soir.
Eh bien M6, Top Chef, arrivant en tête des audiences, 3 500 000 téléspectateurs, 16,1% de part d'audience, est en légère hausse sur une semaine. Sur la deuxième marche du podium, TF1 avec The Resident, les deux derniers épisodes de la troisième saison. 3 millions de téléspectateurs, 13% de part d'audience. C'est un peu moins bien que mercredi dernier. Troisième, France 3, avec un nouveau numéro de la carte au trésor. L'émission était en Vendée hier soir. 2 313 000 téléspectateurs, 10,5% de part d'audience. Et puis encore un score à vous signaler, celui de TMC qui, comme la semaine dernière, réalise un bon score pour Taxi 2. 1 600 000 téléspectateurs, 7,2% de part d'audience. TMC qui s'est lancé dans la diffusion chaque mercredi d'un épisode de la saga Taxi, lui en reste donc encore 3.
Culture Média.
Le journal des médias, Antoine, avec à la une une nouvelle émission, la nouvelle émission, pardon, d'Augustin Trapenard.
Elle s'appelle Plumard, un tête-à-tête entre le journaliste et un écrivain ou une écrivaine. Et elle arrive aujourd'hui sur Brut X, une plateforme de streaming lancée il y a un mois, vous en avez parlé ici, un diffuseur qui offre à Augustin Trapenard beaucoup de liberté, à tel point, vous allez l'entendre, qu'il refuse de parler d'émission.
Plumard n'est pas une émission parce qu'il n'y a pas ce formatage en fait, de l'émission. C'est-à-dire toujours le même temps, toujours la même périodicité. C'est plutôt une série de rencontres littéraires complètement libres qui mettent en avant, comme ce que je fais en fait pour toutes mes émissions, l'œuvre d'un artiste, une réflexion sur son art, mais également sa vision du monde, la façon dont il habite le monde. Ça me paraît être absolument central parce que la parole de l'artiste ne saurait être trop glamourisée, c'est-à-dire un petit peu, on invite des écrivains comme des paillettes, ne saurait être promotionnelle, on invite un écrivain simplement parce que son dernier livre vient de paraître, ou ne saurait être, et à mon sens c'est le plus important, superficiel. L'artiste a quelque chose à dire sur le monde et c'est l'occasion de le lui faire dire.
Voilà, première artiste à dire ce qu'elle a à dire sur le monde, la journaliste et autrice Florence Aubena. On la retrouve avec Augustin Trapenard assise sur un grand canapé Chesterfield, un canapé dont le dossier peut s'abaisser et qui peut donc se transformer en lit, d'où le titre de cette série de rencontres, Plumard. Mais ce n'est pas la seule raison.
Plumard parce que c'est le lieu où je lis. Moi, c'est très important d'apporter quelque chose d'intime en fait dans un entretien. C'est-à-dire de confronter l'espace intime qui est le mien, le canapé sur lequel je lis tous les jours, au territoire de l'invité, qui peut être un rond-point pour Florence Aubena, mais qui peut être tout autre chose, un espace intérieur, extérieur, un espace politique ou proprement symbolique, toutes sortes d'espaces.
Un canapé installé sur un rond-point donc pour Florence Aubena, elle qui avait écrit, vous vous en souvenez peut-être, une série de longs articles sur les Gilets jaunes. Plumard, émission passionnante, pleine de surprises, remplie d'humour. À ce propos, Augustin Trapenard, qui normalement est en direct sur une antenne concurrente, France Inter, à la même heure, avait encore quelque chose à nous dire.
C'est assez étrange d'être sur deux chaînes à la fois, mais en même temps je suis en vacances, donc je suis en rediffusion. Donc je suis avec Europe 1 ce matin, c'est comme ça, c'est la vie, et c'est pas plus mal.
Voilà, c'est pas plus mal, on est ravis d'avoir pu parler à Augustin Trapenard.
Plumard,
avec Florence Aubena, c'est en ligne sur Brut X, 4,99€ par mois. Vous pourrez en entendre un extrait, assez étonnant hein, d'ailleurs, dans le zapping d'Eva Rock tout à l'heure. Rendez-vous dans une petite heure, un peu après 10h.
Augustin Trapenard, que je salue à mon tour. Un programme commence donc, Antoine, et un autre s'arrête.
L'un des talk-shows les plus populaires des États-Unis, celui de l'actrice et humoriste Hélène DeGeneres, diffusé depuis 19 ans sur NBC. Il s'arrêtera donc l'an prochain, comme le prévoyait le contrat signé avec la chaîne. Cela dit, les audiences de l'émission se sont effondrées depuis l'été dernier, depuis que d'anciens membres de l'équipe de production avaient dénoncé une ambiance délétère et des comportements toxiques au sein de cette équipe, en opposition frontale avec l'image de l'émission dont le slogan est « Be kind, soyez gentil ».
En Israël, de nouveau en guerre avec le Hamas, une agression diffusée en direct à la télévision hier soir.
Et un lynchage même, celui d'un automobiliste qui a accéléré, semble-t-il, pour éviter une manifestation près de Tel Aviv, manifestation d'extrême droite. L'homme a été sorti de son véhicule, roué de coups par des dizaines de manifestants, puis laissé pour mort sur la chaussée. Tout cela filmé en direct, à une heure de grande écoute, sur une chaîne publique israélienne. Il a ensuite été secouru et hospitalisé dans un état grave.
L'Obs condamné en appel pour le licenciement abusif de son ancienne numéro 2.
L'hebdomadaire va devoir payer 90 000 euros à Aude Lancelin, licencié en mai 2016, peine identique à celle prononcée en première instance. La Cour d'appel de Paris a estimé que le licenciement de l'ex-directrice adjointe du journal était abusif, sans cause réelle et sérieuse. Et puis, une arrivée au journal Libération, Lorraine Provost devient directrice adjointe de la rédaction. Elle dirigeait jusque-là celle du HuffPost.
Une tête d'affiche pour l'une des premières séries françaises produites par Disney+.
Éric Judor, l'acteur, sera le héros de Weekend Family, comédie familiale de 8 épisodes. L'histoire d'un père de 3 enfants, né de 3 mères différentes, dont la nouvelle femme va devoir s'occuper de toute cette petite famille recomposée. Le tournage a commencé hier avec Pierre-François Martin Laval, PEF des Robins des Bois, et Sophie Rennes comme réalisateur et réalisatrice. Diffusion prévue l'an prochain sur Disney+. Donc.
Merci beaucoup Antoine Janton. À demain pour les audiences et pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, c'est notre info média du jour. Question, la guerre de Troie a-t-elle eu lieu? Eh bien oui, selon un documentaire, des fouilles archéologiques révèlent des similitudes troublantes avec le mythe d'Homère. On en parle avec son réalisateur, Laurent Porte.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire avec un grand H. Oui, la guerre de Troie a bien eu lieu. C'est ce qu'affirme un documentaire qui passe ce soir sur France 5. Longtemps considéré comme un mythe inventé par Homère, la cité de Troie a bel et bien été découverte en Turquie et livre encore aujourd'hui nombre de secrets grâce à des archéologues et à leurs techniques scientifiques de plus en plus poussées. Est-ce pour autant qu'Achille, Hector ou encore le fameux cheval de Troie ont existé? La question, ces questions méritent d'être posées. Bonjour Laurent Porte.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de ce documentaire qui passe ce soir à 20h50 sur France 5 au titre clair et net, la guerre de Troie a bien eu lieu. Alors, selon Homère dans l'Iliade, je vais résumer, Paris, le fils du roi de Troie a enlevé Hélène, femme d'un roi grec qui, pour récupérer son épouse, soulève une armée de 40 000 hommes et va faire le siège de Troie pendant 10 ans avant de la réduire en cendres. Question, cette guerre donc a bien eu lieu, dites-vous, a donc été déclenchée par un banal adultère?
Alors... C'est une vraie question, c'est une question qu'Hérodote a posée dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, pardon, en disant « ça semble assez peu probable que pour les beaux yeux d'une femme, on ait mobilisé autant de gens ». Non, plus probablement ce que pensent les archéologues, c'est que c'est un conflit qui a duré beaucoup plus longtemps que ça, qui s'est cristallisé autour de cette cité, entre la civilisation mycénienne d'un côté, donc le monde grec, et Hittite de l'autre, donc une civilisation disparue qui était... installé au centre de la Turquie.
Les Hittites, c'est écrit qu'un H avant, pas comme Hitti, H-I-T-I-T-E-S, qui était en Anatolie.
C'est ça, en Anatolie centrale.
Le point de départ de votre enquête pourrait provenir d'Heinrich Schliemann, qui est un homme d'affaires qui a entrepris en 1870, donc c'est pas d'aujourd'hui, de fouiller une colline en Turquie. Elle s'appelle, je l'ai noté, la colline d'Issarlik.
C'est ça.
Sous laquelle donc, se trouve Troie. Il avait une idée derrière la tête, il a creusé là, pourquoi?
Alors, il a creusé là parce que... il lisait l'Iliade de façon absolument continue, il la connaissait par cœur. C'était pas un archéologue, hein, c'était un homme d'affaires, un aventurier qui avait fait fortune dans la ruée vers l'or en Californie, puis en vendant des armes à la Russie tsariste. Enfin bon, toute une histoire comme ça assez incroyable. Et par contre, il a toujours avec lui l'Iliade, il connaît l'Iliade par cœur, et dans l'Iliade, Homère donne quelques indications. Il y a un fleuve qui s'appelle le Scamandre, il y a une citadelle qui n'est pas très éloignée de la mer, il y a le mont Ida qui est un peu au loin... Et donc, depuis en fait le XVIIIe siècle, beaucoup de gens sont venus chercher où ça pouvait être. On sait que c'est dans ce coin-là. Ça s'appelait la Troade. On sait que c'est dans ce coin-là. Ils cherchent en partant de là. Ils rencontrent un consul américain qui s'appelle Calvert, dont la famille a acheté un morceau de cette colline et qui lui dit « Je pense que Troie est ici ». Lui, il a creusé, il a sorti quelques poteries. Et Schliemann va très vite comprendre en fait que c'est probablement là, c'est probablement cette colline, mais qu'il n'a pas creusé du bon côté, l'américain. Donc lui, il va aller de l'autre côté.
Ouais.
Et il va faire une tranchée absolument monumentale jusqu'à trouver des murs de pierre colossales qui ressemblent à ceux que décrit Homère. Il dit « J'ai trouvé trois ».
Vous parlez de calvaire, on peut citer également le français Choiseul Gouffier. C'était en 1776 qui avait analysé l'Iliade d'Homère pareillement et localise trois dans cette région. C'est pas dans votre doc, pour quelle raison? Ça faisait trop de personnages? Alors, ou vous ne croyez pas à ces thèses?
Non, c'est tout simplement parce que, oui, pour des raisons de narration sur un format télévision, c'était un peu compliqué. Choiseul Gouffier, en fait, il identifie la région, mais qui en fait est assez bien identifié quasiment depuis l'Antiquité, et il dit c'est une colline, il désigne une colline qui n'est pas Hissarlik, qui est une autre qui est à quelques kilomètres. Et en fait, pendant tout le XIXe siècle, il y a un débat entre est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, et personne ne creuse vraiment jusqu'à Schliemann, en fait, hein, tout bêtement.
Alors, l'existence de Troie est avérée, mais on apprend grâce à votre film que la cité remonte à bien avant le règne de Priam, le roi vaincu par les Grecs. Écoutez.
Ce qu'a démontré Dörpfeld grâce à cette carte, c'est qu'il n'y a pas une, mais bien neuf cités superposées sous la colline d'Hissarlik. La plus ancienne remonte à la fin de la préhistoire, il y a près de 5000 ans. Elle est désignée sous le nom de Troie 1. La plus récente, l'Ilium des Romains, a moins de 2000 ans. C'est Troie 9. Celle que Schliemann a découverte est Troie 2. Elle a été bâtie vers 2500 avant Jésus-Christ.
Donc Troie existe depuis 5000 ans, soit près de 2000 ans avant ce que raconte Homère.
Oui, tout à fait. C'est une ville néolithique. La plus ancienne couche, Troie, c'est une ville néolithique, oui.
Et donc, ça veut dire que c'était des récits oraux? Ou est-ce qu'il y avait déjà des traces écrites? On n'a rien retrouvé d'autre.
Alors, à Troie, on a trouvé un écrit, qui est un sceau. Un sceau pour faire un sceau dans la cire, Hittite, où il y a le nom d'une personne. C'est tout ce qu'on a comme écrit sur place à Troie. Et même le récit d'Homère, qui est écrit en gros 400 ans après la date supposée de cette guerre, est probablement resté oral pendant plusieurs siècles. C'est-à-dire que c'est un poème qu'on apprenait par cœur, que beaucoup de gens connaissaient en Grèce, ouais. Mais il n'y avait pas de version écrite. Il est écrit, il est posé par écrit au cours du 5e siècle à Athènes, parce qu'Athènes veut affirmer sa suprématie sur les autres cités. Il dit, voilà, maintenant Homère, ce sera dans la version athénienne.
Vous savez ce qui me fascine? C'est que Google Maps n'existait pas, et pendant 2000 ans, on a réussi à localiser la colline avec la fameuse rivière. Je trouve ça complètement prodigieux. L'archéologie, pour nous, c'était parfois le retour de la grande aventure avec Indiana Jones, mais dans votre film, on voit que c'est plutôt des recherches scientifiques à base de techniques au nom très savant, la paléogéographie, la photogrammétrie. Vous nous expliquez ces techniques?
Alors, la paléogéographie, c'est la géographie en gros des sous-sols. C'est-à-dire que le principe est simple. Au cours du temps, les sols montent, il y a des strates. On fait une stratigraphie. Et en fait, on fait tout simplement un carottage dans le sol pour aller voir ce qu'il y a plus profond et savoir quelle était la nature des sols dans les siècles et les millénaires avant. Voilà. Ça, c'est de la paléogéographie. En fait, c'est de la géographie utilisée en paléontologie et en archéologie. On s'en sert. On s'en sert pour plein de choses, pas seulement en archéologie, mais c'est effectivement très utile.
Et la photogrammétrie?
Alors la photogrammétrie, c'est une modélisation d'un paysage ou d'un objet en 3D, en recoupant en faisant une série de photos, tout bêtement, sur lesquelles il va y avoir des points fixes. Souvent, c'est un petit repère de papier qu'on met au sol. Et à l'aide d'un logiciel, d'une intelligence artificielle, on va réunir ces photos pour donner une restitution 3D de ce qu'on filme, de ce qu'on photographie. Et ça, c'est très utile pour les archéologues parce que ça leur permet d'étudier un site, d'étudier des fouilles sans être dessus. C'est-à-dire qu'ils l'ont dans l'ordinateur, ils peuvent aller jusqu'au dernier détail.
Il y a évidemment des éléments qu'on ne peut pas retrouver. C'est le bois. Oui. Puisqu'il disparaît, il se putréfie, c'est un élément naturel. Donc, le cheval de Troie, on y vient, événement marquant de cette guerre. Et évidemment, vous revenez dessus dans ce documentaire, on écoute.
L'Iliade ne révèle rien sur la fin de la guerre. C'est dans l'Odyssée qu'Homère fait raconter à Ulysse la ruse qui lui a permis de faire entrer les Grecs dans la cité et de la mettre à sac. Un immense cheval de bois, à l'intérieur duquel se cachait un grand nombre de guerriers, que les Troyens ont eux-mêmes fait entrer dans la ville, pensant qu'il s'agissait d'une offrande à la déesse Athéna. Une histoire qu'aucun archéologue n'a jamais tenue pour véridique. Mais le mythe pourrait-il malgré tout reposer sur une réalité historique?
Vous savez quoi? Je vous laisse répondre à cette question.
Alors, effectivement,
quelle est la réalité historique du cheval de Troie?
Alors, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Les archéologues, tous ceux en tout cas que j'ai pu rencontrer, ont des avis divergents là-dessus. Ça va de... Mais ils sont d'accord sur une chose quand même, c'est le cheval de Troie, tel que décrit, non pas dans l'Iliade, mais évoqué dans l'Odyssée par Ulysse, par Homère, par la voix d'Ulysse, ça, c'est pas possible, ça n'a pas existé. Différentes théories. La plus courante, c'est une invention poétique d'Homère, ou des autres poètes qui ont écrit sur la guerre de Troie, parce qu'il y a eu beaucoup de textes qu'on a perdu qui racontaient ces épisodes. Ça, c'est assez répandu. Ou c'est une machine de guerre qui pourrait évoquer la forme d'un cheval, qui a été utilisée pour briser des murs. On sait que ces machines existaient à l'époque parce qu'on en a des représentations sur des bas-reliefs assyriens. Donc les Assyriens, c'est plutôt sur le nord de l'Irak.
Comme des sortes de chars à la Léonard de Vinci ou...
Un petit peu, avec un bélier en fait, ouais. Qui fait une tête qui avance et on peut défoncer un mur avec ça. Donc ça pourrait être ça. Une autre hypothèse que m'a donnée un archéologue turc, qui est la plus étonnante, je trouve, c'est on sait qu'à peu près à l'époque où on suppose que la guerre de Troie s'est tenue, il y a eu à Troie un tremblement de terre et des murs se sont effondrés. Mmh. Donc, son hypothèse, c'est de dire c'est comme ça que les Grecs ont pris la ville, parce que le tremblement de terre a fait tomber les murailles colossales qui défendaient la citadelle. Comme dans l'Antiquité grecque, le maître des tremblements de terre était Poséidon, et que Poséidon avait pour animal emblématique le cheval, on aurait pu, après la chute de Troie, ériger un cheval de bois en hommage à Poséidon qui avait livré la ville aux Grecs. Voilà, c'est la dernière interprétation que j'ai eue.
Alors, malgré les problèmes de la science, il y a beaucoup de choses qui sont soumises à interprétation subjective, on vient de l'entendre. Vous-même, vous avez eu recours à l'illustration pour illustrer des faits, comme les guerres homériques.
Alors, les guerres homériques, ça reste un mythe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une guerre à Troie. Cette ville est probablement tombée sous les coups des Mycéniens autour de 1200 avant Jésus-Christ. Mais ce que raconte Homère, ça reste un récit mythique. C'est-à-dire que le récit d'Homère, c'est quand même un récit où les dieux viennent conduire un char et frapper à grands coups d'épée sur la tête des ennemis des Grecs ou des Troyens, selon le camp qu'ils choisissent. Donc, j'avais deux problèmes, en fait, si vous voulez, qui m'ont conduit à choisir de faire de l'animation. Le premier problème, c'est quand on a le catalogue des 1000 vaisseaux qui arrivent, poser 1000 vaisseaux sur la mer à filmer...
France 5 n'a pas les moyens.
France 5 n'a pas forcément les moyens. L'autre problème, c'est que ce qu'on raconte, ça reste un mythe et que ça m'embêtait de l'incarner avec des comédiens. Donc, le choix du dessin animé, ça a été ça aussi. Ça a été pour mettre une distance entre le récit d'Homère et la réalité décrite par les archéologues.
Ce qu'on découvre également dans votre documentaire, c'est que la mer s'est déplacée de 7 km. Ouais. Comment est-ce possible? Réponse juste après ça. On est avec Laurent Porte qui a enquêté sur le site archéologique qui pourrait être le siège de la mythique guerre de Troie. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
La guerre de Troie a bien eu lieu, c'est le titre et c'est la thèse de Laurent Porte. Il réalise un documentaire qui passe ce soir sur France 5 à 21h. Il n'est pas le seul, évidemment, à dire ces choses-là, parce que c'est appuyé sur des preuves scientifiques. Vous voyez beaucoup de gens, beaucoup de témoins qui parlent. Vous évoquez dans votre film un tumulus qui pourrait abriter la dépouille d'Achille. Mais d'abord, est-ce qu'il a vraiment existé, Achille?
Ça, c'est un grand mystère. A priori... Non, a priori, les personnages que décrit Homère sont des personnages de son temps, c'est-à-dire quelques siècles après les événements de la guerre de Troie. Ceci dit, pourquoi pas, peut-être on le découvrira.
En tout cas, mais alors ce tumulus, alors ?
Alors ce tumulus, c'est la tradition locale. Il faut bien comprendre que pendant toute l'Antiquité grecque et romaine, on a pris les événements décrits par Homère comme de l'histoire littérale. C'est vraiment au premier degré. Et on savait à l'époque où était Troie. On savait que cette ville était là. Les empereurs romains y venaient en pèlerinage quasiment. Mmh. Et donc il y avait ce tumulus.
Un tumulus, c'est quoi d'un mot?
Un tumulus, c'est une espèce de colline dans laquelle, artificielle, dans laquelle, en général, on a enterré une tombe importante.
Un énorme, énorme tas de terre.
Voilà, c'est ça, qui fait à peu près une trentaine de mètres de haut, là, celui dont on parle. Et la tradition orale, dès l'Antiquité, disait « c'est là qu'est enterré Achille ». Et donc, quand Alexandre le Grand, par exemple, arrive, il vient à Troie, quand il arrive en Asie mineure, il veut voir la tombe d'Achille pour lui rendre hommage, parce que c'est le plus grand des Grecs, donc c'est logique que lui, Grec, veuille faire ça. Et la tradition dit qu'il aurait passé une nuit nu à danser autour de ce tumulus en buvant du vin en hommage à Achille et en récitant l'Iliade. Voilà. Il se trouve que ce tumulus, il a été fouillé. Il a été fouillé dans les années 20-30, si je me souviens bien. Il a été refouillé au début des années 2000 par une équipe allemande, turco-allemande. Il n'y a rien, en fait. Donc c'est une pure légende. Si Achille a existé, en tout cas, il n'est pas enterré là.
Mais alors, juste un mot dans votre documentaire. Tous les archéologues disent être à la recherche de cimetières, mais à l'époque, ils ne brûlaient pas les morts. Alors, ça s'étale sur tellement d'années qu'il y a plusieurs réponses possibles.
Alors, est-ce qu'ils brûlaient les morts? Là, je ne saurais pas vous répondre. Les pratiques funéraires des Hittites et des Mycéniens, ça reste assez mystérieux, en tout cas pour moi. Ce qui est certain, par contre, c'est que quand on a des guerriers d'importance, des chefs de guerre, et il y en a eu un paquet dans ce conflit qui tombe, de toute façon, on retrouve dans les tombes ce que les archéologues appellent des dépôts, c'est-à-dire du matériel funéraire avec des boucliers, des casques, des armes, des harnachements de chevaux, de la vaisselle en or ou en céramique. Voilà, ça c'est traditionnel. D'ailleurs, Schliemann lui-même en a retrouvé à Mycène et a dit « j'ai retrouvé la tombe d'Agamemnon ». Il s'est encore trompé, mais voilà. Donc, il cherche ça parce que c'est souvent ces endroits funéraires, c'est souvent là où ils ont le plus d'indices matériels. Pour l'instant, à Troyes, on a trouvé deux corps dans les années 30, 20-30. C'est l'archéologue américain Blagan qui a trouvé deux corps qui étaient là où ils étaient tombés. Ouais. Donc probablement la suite d'un combat et on les a laissés là parce que la ville a dû être abandonnée après la chute. Deux corps. Et ensuite, l'archéologue Korfmann, allemand, dans les années 2000, a trouvé une tombe d'enfant un peu à l'écart. C'est tout ce qu'on a.
Qu'ont donné les recherches ADN sur les deux corps, qui ADN qui n'existait pas en 1930. Enfin, qui existait, mais qu'on n'avait pas découvert plutôt.
Alors, je ne sais pas s'il y a eu des recherches ADN sur les corps découverts en 1930, probablement. Je pense que ça n'a pas donné grand-chose. C'est-à-dire que,
sinon, on l'aurait su.
Sinon, on l'aurait su. Et en plus ça nécessite une référence. Or, les Hittites de l'époque ne sont pas les Turcs. Les Turcs qui peuplent la Turquie sont arrivés à peu près au XIe siècle après Jésus-Christ. C'est une peuplade qui vient des steppes d'Asie centrale. Hein. Ça n'a rien à voir avec les Hittites qui étaient là, qui étaient des gens probablement plus proches des Perses actuels, mais on ne sait pas bien en fait. Donc on n'a pas de point de repère, donc l'ADN est assez dur à utiliser.
On mène cette interview comme une suite d'énigmes, et c'est pareil dans votre documentaire. Chaque révélation débouche sur une question, par exemple.
La Troie de l'Iliade est une ville côtière, que les Grecs voient de leurs bateaux avant d'accoster sur le rivage. Et les Troyens peuvent contempler depuis leurs murs les 1000 vaisseaux de la flotte grecque venus porter le fer et le feu dans leur cité. Or, la colline d'Hissarlik se trouve aujourd'hui à 7 km à l'intérieur des terres. On ne peut pas la voir depuis le rivage, et même depuis son sommet, on ne distingue qu'à peine la mer. Comment expliquer cette différence ?
Elle est bien cette dame, elle pose des bonnes questions, c'est la voix off. Mais oui, comment la mer a pu se déplacer à 7 km de la cité de Troie ?
Alors la mer ne s'est pas déplacée en fait, la mer a reculé parce que si on en croit les cartes antiques, il y a des géographes dans l'Antiquité qui commencent à étudier ça, notamment là, autour du 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ, notamment des gens comme Pausanias ou Strabon qui vont aller voir sur place, dessinent des plans et on voit qu'en fait il y avait une baie. C'est-à-dire que la mer s'avançait dans les terres, faisait une baie un peu comme la baie de San Francisco, si ça parle aux auditeurs. Et il y a un fleuve qui débouche dans cette baie qui s'appelle le Scamandre, qui est évoqué par Homère, qui est un fleuve qui a l'air de rien hein, quand on le voit comme ça, mais qui a été beaucoup plus important probablement à l'époque. Et ce fleuve qui descend des monts Ida, donc quelques dizaines de kilomètres en arrière, charrie des alluvions, comme le fait le Nil en Égypte. Et ces alluvions viennent et comblent la baie petit à petit. Et comme on parle d'une période qui est plusieurs millénaires en arrière, petit à petit, ça recule là, ça remplit la baie complètement et ça recule de 7 km. C'est assez intéressant parce que le géographe, justement, Strabon, dans l'Antiquité, déjà vient à Troie et est très étonné parce que, en gros, il décrit une mer qui est à plus d'un kilomètre et demi de Troie. Ouais. Et donc, il dit qu'il y a un problème parce que ce n'est pas ce que raconte Homère. Lui, il n'a pas, justement, ces outils de paléogéographie qui permettent aux archéologues de faire des carottages dans le sol et de dire, effectivement, là où aujourd'hui il y a des champs où on fait pousser des tomates, en gros. À quelques mètres, quelques dizaines ou quelques mètres en profondeur, on a des coquillages, on a des vestiges de végétation marine, des vestiges, des fossiles de poissons. Donc la mer était bien là, en fait. On le sait comme ça.
Alors, le mythe de la guerre de Troie a donné lieu à beaucoup de fiction. On va entendre la bande-annonce du film Troie avec Brad Pitt dans le rôle d'Achille, film signé Wolfgang Petersen, sorti en 2004. Bande-annonce.
La légende dit qu'une reine trahit son roi.
Nous serons réunis dans ce monde ou dans l'autre.
Et aima jusqu'à dresser un royaume.
Je veux qu'elle revienne. Viendras-tu faire la guerre avec moi, mon frère ?
Contre un autre.
Jamais tu ne provoqueras de guerre pour elle. Tu laisserais Troie brûler pour cette femme ?
Nous allons faire la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Il nous faut le plus grand des guerriers. Il est dit qu'un héros, en quête de gloire, mena une guerre qui restera gravée dans les mémoires.
L'immortalité ! Prenez-la ! C'est la vôtre !
Alors un film assez proche de ce que vous montrez dans le documentaire d'ailleurs, des tunnels creusés sous la cité qui mènent au fleuve, l'architecture des tours, il n'y a que sur la durée de la guerre, vous n'êtes pas d'accord, de 10 ans, on passe dans le film à une quinzaine de jours. Vous en pensez quoi ?
Ah bah j'en pense qu'ils ont bien lu leur Iliade.
Ah oui ?
Ah bah oui, parce que l'Iliade en fait raconte pas toute la guerre. En fait, il y avait dans la Grèce antique, à peu près à la période d'Homère et dans les quelques siècles qu'on suivit, il y a eu ce que les Grecs appelaient le cycle troyen, c'est-à-dire en gros une dizaine d'œuvres, de poèmes qui racontaient cette guerre et tous les épisodes. Homère, il ne raconte pas tout. Homère, ouais. L'Iliade, c'est le sous-titre, c'est la colère d'Achille. Il raconte un épisode qui s'étend sur quelques semaines et en gros une quinzaine de jours précis qui sont décrits, qui vont du moment où Agamemnon, donc le chef des Grecs, vole à Achille sa captive, qui est sa prise de guerre, qui s'appelle Briseis. Et donc Achille fait la tronche, quoi. Achille, il n'est pas content, il veut plus se battre. Et là, c'est un peu la catastrophe pour les Grecs, parce que sans Achille, ils ne sont pas forts.
Alors, vous l'avez dit, France 5 n'avait pas le budget pour 1000 bateaux. France 5 n'avait pas non plus le budget pour Brad Pitt. Non. Vous avez eu recours à des reconstitutions avec des comédiens qui ne parlent pas, des figurants. Là, c'était inévitable.
Alors, non, là, on a fait du dessin animé pour raconter l'Iliade. On a des séquences avec des figurants pour Schliemann, en fait, pour remettre en scène Schliemann.
D'accord. Pour quelle raison ? Pourquoi ce choix ?
Alors, en fait, c'est lié aux circonstances du tournage, tout bêtement. C'est-à-dire que c'est une année Covid et on devait, en fait, il y avait des fouilles prévues. On a tourné ça à l'automne dernier. Il y avait des fouilles prévues sur le site de Troyes avec un archéologue turc qui s'appelle Rustem Aslan, qui dirige toutes les fouilles là-bas, à la recherche de cette fameuse nécropole. Et pour raison de Covid, la police turque a dit non, il n'y aura pas de fouilles. Et du coup, on avait un manque en images. Et il se trouve qu'il y avait une fiction allemande où on avait fait jouer Schliemann à un comédien. Et donc, on a comblé avec ces images pour arriver à voir toute la durée et toute l'épaisseur du récit.
Très bonne infomédia. Je vous remercie de cette petite confidence. Merci Laurent Porte. La guerre de Troie a bien eu lieu. C'est diffusé ce soir à 20h50 sur France 5. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Culture Média continue évidemment. Dans un instant, notre invitée sera Valérie Doragnan. C'est la directrice de la non moins mythique revue des Deux Mondes. C'est la plus ancienne revue européenne en activité. Elle a été fondée en 1829 et paradoxalement, les ventes montent. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Valérie Doragnan.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste, ancienne directrice du magazine Elle, c'était de 2002 à 2014. Vous dirigez depuis la revue des Deux Mondes, une des plus anciennes revues françaises, fondée en 1829, c'est indiqué sur la couverture, qui a beaucoup fait parler d'elle au moment de l'affaire Pénélope Fillon, j'en dis pas plus. Mais d'abord, comment pourrait-on, pour qui ne la connaît pas, qualifier cette revue ?
C'est une revue qui s'est beaucoup recentrée depuis que j'en ai pris la direction en 2015 sur les débats d'idées. Mais dans son histoire, dans son ADN, c'est une revue littéraire, c'est une revue historique, politique, qui a aussi beaucoup, au 19e siècle, été une grande revue de récits de voyage. C'est l'époque où Georges Sand, Alexandre Dumas et Balzac, enfin beaucoup d'auteurs écrivent dans la revue. Et à l'époque, on ne voyage pas beaucoup et le voyage, le récit de voyage est quelque chose de très important. Et puis, aujourd'hui, on lui a... je pense qu'elle elle épouse aussi son époque, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, je suis arrivée à la Revue des Deux Mondes en 2015, et même plus précisément en janvier 2015, qui est une date pas anodine, puisque c'est, vous vous en souvenez,
les attentats
Charlie. Et c'était un peu comme un symbole, c'est-à-dire qu'il fallait s'emparer de cette époque, il fallait dire quelque chose. Il y a un comité de rédaction, il y a une équipe dans cette Revue des Deux Mondes qui est composée d'auteurs, de chercheurs, d'universitaires, d'écrivains. Et ce qu'on veut, c'est apporter une réflexion plus approfondie sur les sujets qui sont les sujets sur lesquels aujourd'hui tout le monde s'interroge. Et ça peut être politique, ça peut être historique, ça peut être sociétal. On aborde beaucoup de questions.
Alors on a aussi une émission média. Depuis votre arrivée, les ventes ont triplé. J'ai lu ça partout. Je ne suis pas arrivé à trouver les chiffres de diffusion. Combien de lecteurs, combien d'abonnés ?
Alors aujourd'hui, on est au total aux alentours de 10 000, ça dépend des numéros et ça dépend des ventes de chaque numéro, hein, mais on est entre 9 et 12 000, disons. On est moitié-moitié, c'est-à-dire qu'on a moitié d'abonnés, et puis on a une vente en kiosque qui est extrêmement dynamique et aussi une vente en librairie.
10 000 ventes, il faut les faire, parce que c'est à 18 euros, ce qui n'est pas rien, ce n'est pas un petit magazine. Quel est votre positionnement politique ?
Alors, notre
est-ce qu'il y en a un d'abord ?
Traditionnellement, la revue était plutôt au 19e et même au 20e, une revue, disons, du centre, plutôt libérale, plutôt dans le débat d'idées, pas gauchiste, hein, ouais. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, je pense que, moi ce qui m'intéresse c'est le débat d'idées, je pense que le positionnement politique d'une revue, mais d'ailleurs le positionnement politique en général, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très compliqué, parce que est-ce qu'on est de droite, est-ce qu'on est de gauche, j'en sais rien. Est-ce que les Français aujourd'hui se repositionnent comme de droite ou de gauche? Je crois pas, je crois que ce sont des questions un peu obsolètes. Mmh. En revanche, il y a des thématiques qui les passionnent, et c'est ces thématiques-là qu'on a voulu aborder frontalement et sans avoir peur.
Question pas si obsolète que ça, en 2015, à votre arrivée à la tête de la revue Valérie Doragnan, les Inrocs s'interrogeaient, je les cite, après le journal Le Monde, la plus vieille revue intellectuelle d'Europe est-elle en train de basculer d'un conservatisme bourgeois à une ligne éditoriale réactionnaire et pessimiste à souhait ? Que leur répondez-vous ?
Mais écoutez, si à chaque fois qu'on aborde les questions de société ou les questions politiques qui passionnent les Français, on est traité de réactionnaire, je dis que c'est dramatique parce qu'il n'y a plus de débat. Mais de toute façon, notre société s'oriente vers de plus en plus une complication et une confiscation du débat. On le voit par plein d'épisodes, on le voit avec ce qui s'est passé avec les dessinateurs qui sont obligés de partir des rédactions, etc. Donc non, nous, on est dans le débat d'idées et on veut défendre. Les Français se posent des questions, on a envie d'être au cœur de ce débat d'idées et de les aborder franchement.
Alors c'est un procès récurrent que l'on vous fait, et comme pour couper l'herbe sous le pied de vos contempteurs, votre éditorial du numéro de juin, que je montre ici à la caméra, vous pouvez nous voir sur europe1.fr, est titré « Aimer la France, c'est pour faire taire les critiques ».
C'est pour faire taire les critiques, je ne sais pas. La question aujourd'hui, je pense qu'on vit une époque extrêmement compliquée mais passionnante. Ça veut dire quoi aimer la France? Ça veut dire quoi le débat qui s'est installé dans notre société? Est-ce qu'il faut être républicain? Est-ce qu'il faut être nationaliste? Comment on se positionne par rapport aux questions migratoires? Voilà, tout ça, ce sont des questions importantes pour nous et qu'on a envie d'aborder et sans tabou. Ouais. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quand vous parlez de... Il y a 30% des Français, vous savez, qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Donc, est-ce qu'ils sont de droite, est-ce qu'ils sont de gauche, on n'en sait rien. Quand vous abordez ces sujets, vous êtes quoi? De droite ou de gauche? Quand vous abordez l'immigration, vous êtes de droite ou de gauche? Pourquoi dire que dès qu'on aborde des sujets qui sont des sujets compliqués, on vous taxe immédiatement d'être dans le camp du mal? Voilà, nous, on se bat contre ça et on a envie d'ouvrir les portes, de faire réfléchir et dans tous les domaines et sans tabou.
Alors vous avez choisi pour illustrer cet amour de la France l'écrivain Romain Gary, il est d'ailleurs en couverture de la revue, vous écrivez « Pas une seule goutte de sang français ne coule dans ses veines, seule la France coule en lui ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Valérie Thorragnan ?
C'est formidable parce que lui, il est né... C'est un immigré, c'est un juif, il est rescapé de la Shoah et il a porté toutes ces questions de l'identité. En fait, il se rit des questions d'identité, c'est aussi ça qui est intéressant chez lui. C'est qu'il dit qu'en fait, tout ça ne compte pas. Il est aujourd'hui... C'est un promoteur de beaucoup de questions, c'est un promoteur de l'écologie, c'est-à-dire que c'est un des premiers à avoir dit « attention, l'Afrique, ce qui se passe en Afrique, c'est important ». Il le fait, mais avec, si vous voulez, une modernité qui est incroyable par rapport à son époque. Donc c'est ça aussi qui nous a plu. Et puis c'est un homme qui se joue, qui n'a pas peur du subterfuge, qui triche et en même temps... Ce qui est très intéressant, c'est que la question de l'identité, pour lui, c'est une fausse question. Il n'y a pas d'identité, on se joue des identités, et tous ceux qui veulent nous assigner à des identités se trompent. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec lui, c'est ça qui est intéressant avec cet homme.
Quoi d'autre dans la revue Des Deux Mondes? Valérie Thorragnan, sa patronne, est avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Valérie Thorragnan, la directrice de la revue Des Deux Mondes, le numéro de juin vient de sortir avec Romain Gary en couverture. Identité, civilisation, écologie, Romain Gary, les leçons d'une vie. Les lecteurs de la revue Des Deux Mondes sont traditionnellement des gens lettrés. Que vont-ils apprendre sur Romain Gary qu'ils ne connaissaient déjà?
Peut-être c'est surtout la lecture actuelle de Romain Gary qui est intéressante parce que dès les années, 50, 60, 70, il s'intéresse à des thématiques qui sont extrêmement contemporaines aujourd'hui comme l'écologie. Mais en même temps, avec cette façon de lui dire « Attention, dans les racines du ciel, attention, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons respecter cette planète? Et attention, nous nous adressons à des populations qui, elles, rêvent de progrès. » Et ça, ce paradoxe, c'est très important. Il le décrit très, très bien. Et ça nous, aujourd'hui, c'est absolument actuel. C'est-à-dire, quel va être le rôle de l'écologie? Et puis surtout, il joue de manière absolument fabuleuse avec les identités. Il s'en rit. Il a plein d'appartenances, plein de pseudos. Et ça, aujourd'hui, on est tellement crispé dans ce débat identitaire, c'est aussi une joie, une jubilation de le lire.
Alors justement, à ce propos, il y a un article savoureux, Gary sous le feu critique, morceau choisi. En fait, vous avez retrouvé des articles de l'époque quand Romain Gary, parfois il était encensé, mais parfois il se faisait démolir par la critique. Alors, je vais citer qu'un exemple, parce qu'il faut dire quelque chose pour les plus jeunes, Gary est le seul auteur qui a eu deux fois le prix Goncourt. Une fois sur son nom, une fois sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Et le plus jouissif, c'est quand un critique qui avait démoli Gary en sens Ajar sans savoir que c'est la même plume. Alors, il s'appelle Mathieu Gallet, il écrit à l'époque dans Art, il parle de La promesse de l'aube, le livre de Gary. Il est dommage qu'un si beau titre cache un ouvrage manqué. tout le monde peut se tromper, mais comment peut-on se tromper à ce point? Voilà ce qu'il dit du style de Gary. Et après, la vie devant soi, Mathieu Gallet le même. L'anecdote est touchante, le décor digne avec soin, le pittoresque dosé pour séduire. Bref, le talent ne fait aucun doute.
Oui.
Et ça, c'est assez jouissif.
C'est jubilatoire. Qu'est-ce qui devait rire de tout ça?
Oui, et alors justement, ce qu'il en a dit, parce qu'à la fin de sa vie, il en a parlé, et c'est également dans la revue Des Deux Mondes. La dernière partie de la revue Des Deux Mondes est consacrée aux critiques de livres, aux notes de lecture. Vous êtes amusé à plonger dans les... Vous avez fait plein de choses. Est-ce que vous avez regardé d'anciennes critiques de la revue Des Deux Mondes, où par exemple, je ne sais pas, Proust se faisait étrier? Ou est-ce que vous n'avez pas ça?
Si, on a, on pourrait faire un jour un florilège de ceux qui ont dit des absurdités ou ceux qui se sont trompés, bien sûr. Mais c'est vrai que ça a été une grande revue littéraire et que ça continue et que chaque semaine, chaque mois, par exemple, on ouvre nos colonnes à des auteurs pour faire des nouvelles inédites. Donc ça, c'est une tradition de la revue qui se perpétue.
Et il y a même une revue des revues.
Oui.
Donc ce qui est assez confraternel,
oui,
pour
oui,
les
bah
autres.
C'est bien, ouvrons nos colonnes aussi aux autres.
Alors à propos de notes de lecture, cette partie du journal a fait couler beaucoup d'encre malgré elle à cause de l'affaire dite Pénélope Fillon. On était en 2017, le Canard Enchaîné avait révélé que Pénélope Fillon avait touché entre mai 2012 et décembre 2013 un salaire mensuel brut de 5000 euros de la part de la revue Des Deux Mondes. En réalité, elle n'aurait fourni que deux notes des lectures. Elle avait été engagée directement par le propriétaire de la revue, Marc Ladrette de La Charrière. En quoi cet épisode a-t-il affecté, s'il l'a affecté, l'image de Marc et de la revue?
D'abord, moi, j'arrive bien après cette histoire.
C'est vrai, bien sûr.
Je ne pense pas que ça l'a affecté. C'est une histoire qui a été réglée, qui est passée en procès, qui est jugée. Non, je crois que...
Bon, je vais vous dire, on a une émission média ici, pardon de dire les choses comme ça, mais ça a donné à la revue Des Deux Mondes un boost de notoriété. Il y a des gens qui ne la connaissaient pas, qui l'ont découverte et qui se sont même mis à l'acheter depuis.
Oui, comme disait l'autre, toute publicité est une bonne publicité. Mais je pense que nous, on a fait notre chemin et on a tracé notre voie indépendamment de ça et qu'on le faisait déjà et qu'on a continué sur une ligne. Le fait qu'on ait de plus en plus de lecteurs qui s'intéressent à nous, qu'on ait une parole libre et qu'on se moque un peu aussi du politiquement correct, je pense que tout ça, ça se traduit depuis des années et qu'aujourd'hui, on en récolte aussi un peu les fruits, tant mieux pour la revue.
Puisque vous parlez de politiquement correct, je vais revenir sur vos combats personnels, Valérie Thoragnan, votre engagement féministe, notamment un papier que vous avez publié sur le site de la revue, parce qu'il y a aussi un site, c'était le 8 mars, journée pas choisie par hasard, journée du droit des femmes, vous penchez sur le féminisme, ou plutôt sur ce que ce combat est devenu. Vous dites, la mort de l'universalisme, c'est la fin du féminisme. Qu'entendez-vous par là? Vous dénoncez, je donne une clé supplémentaire, le néo-féminisme intersectionnel et racisé, c'est-à-dire...
Ben c'est qu'on est aujourd'hui, c'est ces valeurs qui sont des valeurs d'extrême-gauche, qui sont tout un discours décolonial, racisé, sont devenues l'alpha et l'oméga du féminisme. On a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Moi, j'ai toujours été féministe, hein, et je le suis toujours, et je suis universaliste. C'est-à-dire que je pense que c'est pas la couleur de la peau qui détermine si on doit se battre pour les droits d'une femme ou pas. Quand aujourd'hui, les néo-féministes vous expliquent que le seul combat, c'est contre le mâle blanc prédateur occidental, et que quand un homme est racisé, ce qu'il fait, c'est pas la même chose, et c'est pas du même ordre, parce que lui, il est noir, ou maghrébin, ou arabe, ou musulman. Pour moi, ce sont des choses inacceptables. En ce sens-là, je continue d'être universaliste, et je déplore vraiment le fait que ce combat féministe est versé dans ce néo-féminisme qui s'occupe de race, qui est obsédé de race, comme jamais l'extrême droite n'a été obsédée de race, avec
par
la
exemple...
bénédiction du camp du bien. Ben, voilà, typiquement, si vous êtes un homme racisé, comme on dit, votre victime a pas de chance, parce que la pauvre, comme son prédateur est racisé, on va pas en parler, parce que le prédateur est d'abord une victime. Et ça me scandalise. Donc non, le combat féministe, il est universaliste. D'abord, les femmes, ce ne sont pas une minorité, c'est la moitié du monde. Donc je continue de porter ces valeurs à l'intérieur de la revue Des Deux Mondes, et je pense qu'elles sont essentielles et qu'on est en train de se perdre, et que le combat féministe se perd.
À propos d'intersectionnalité, vous avez vu ce qui s'est passé à Tours, qui a créé beaucoup d'émoi, y compris dans la communauté homosexuelle. Il y a une manifestation pour défendre les droits LGBT qui était prévue samedi. L'annonce d'un cortège non mixte pour les personnes racisées, comme vous dites, au sein de la manif, qui était prévu à susciter une vive polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Et l'association qui organisait la marche, pourquoi, annonçait sur son compte Instagram, je cite là, je prends bien mes notes, qu'un cortège de tête en annonçait un cortège de tête en non-mixité pour les personnes LGBT plus racisées prévues lors de la marche. L'association ajoutait que toute personne blanche qui essayera de s'incruster dans ce cortège se fera cordialement ou non dégager. Réaction.
C'est d'une violence incroyable, c'est d'une violence symbolique et même là, physique carrément qui est annoncée. Est-ce que c'est ça la France dont on veut? Est-ce que c'est ça le débat dont on veut? Le débat intellectuel, le débat politique? Je ne pense pas. Et je pense que la majorité des gens subit ça et subit un terrorisme intellectuel aujourd'hui de la part de ces groupements qui veulent mettre en avant la différence, la race et la minorité. Et ça, je pense que c'est un échec et c'est un recul.
Voilà. Et malheureusement, de la haine s'ajoute à la haine puisque du coup, des menaces de mort ont été proférées contre les organisateurs de cette marche. Et du coup, la marche a été annulée. Merci Valérie Toragnan. Je
Merci
rappelle la revue des deux mondes. C'est désormais en kiosque. Le numéro de juin coûte 18 euros. En couverture, Romain Gary. Et alors, ce titre dont on n'a pas eu le temps de parler, La France est-elle un pays communiste? Rien que poser la question quand même. Culture Média, après le rappel des titres de 10 heures, on va recevoir Eva Rock et Bertrand Chameroy. Notre invité culture ensuite sera la comédienne et animatrice Anne de Petrini pour son tout premier livre. Ça s'appelle La Quête. Il y a un sous-titre ou éventuellement un titre bien meilleur. C'est le vrai titre. Il y aura les indispensables aussi. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.